Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies de ce jour, dont voici le sommaire. Affaire Minembwe, la MONUSCO se prononce et appelle les Congolais et les communautés vivant côte à côte dans cette contrée à se réconcilier pour s'attaquer aux défis du développement socio-économique de ses habitants. Dans cette édition, vous suivrez le porte-parole intérimaire de la mission onusienne en RDC. La FAO a besoin de 155 millions de dollars pour accompagner le gouvernement congolais dans son programme visant l'atténuation de la famine. Selon cette agence de l'ONU, près de 22 millions de personnes en RDC sont victimes cette année de l'insécurité alimentaire sévère aiguë contre près de 16 millions en 2019. Le représentant de la FAO Congo démocratique est aussi à suivre dans ce magazine. Enfin, nous irons dans la partie nord-ouest du pays. Plus de 2500 familles du village Inke, à une trentaine de kilomètres de Badolité, ont reçu l'assistance du ACR en articles ménagers. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à ce magazine présenté par Belinda Bosuma. Les Congolais eux-mêmes et les communautés qui vivent côte à côte à Minembwe dans le sud Kivu et sur les hauts plateaux doivent apprendre à vivre ensemble. Déclaration de la MONUSCO mercredi dernier à Kinshasa. Le porte-parole de la mission répondait ainsi à une question au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Le rôle de la MONUSCO, a indiqué Mathias Gilman, c'est à la fois de tout faire pour mettre hors d'état de nuire les forces négatives qui sèment l'insécurité dans cette zone et de renforcer les mécanismes de dialogue intercommunautaire. Les propos de Mathias Gilman, recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Minembwe, pour nous, est un territoire congolais, déjà, qui, comme beaucoup d'autres territoires congolais, malheureusement, a des problèmes liés à la cohabitation de différentes communautés. La situation est toujours tendue. Nous essayons à la fois de mettre hors d'état de nuire les groupes armés, les milices qui continuent de s'en prendre à la population, et nous essayons en parallèle de renforcer les mécanismes de dialogue et de faire en sorte que les communautés qui vivent à Minembwe et autour de Minembwe puissent se réconcilier. Il est très important pour nous de comprendre que ce n'est pas nous qui allons faire la paix à Minembwe et autour, ce sont les Congolais eux-mêmes, ce sont les communautés qui vivent côte à côte à Minembwe et sur les hauts plateaux qui doivent apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie pour ensuite pouvoir s'engager sur la voie d'un développement socio-économique.
Le nombre des personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë sévère en RDC est passé de 15,6 millions en 2019 à 21,8 millions en 2020, selon le représentant de la FAO en RDC. Aristide Ongone Obame était l'invité de la conférence de presse des Nations Unies mercredi à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. Et pour combattre cette insécurité alimentaire, il a révélé que la FAO a besoin de 155 millions de dollars pour accompagner le gouvernement congolais dans un programme axé autour de quatre priorités et étendu de 2019 à 2023. Les propos du représentant de la FAO en RDC recueillis par Honoré Missenga Kalala.
La première priorité, c'est la gouvernance du secteur agricole, pêche, élevage. Il faut bien entendu que ce secteur ait les capacités de répondre aux besoins des populations. La deuxième priorité, c'est le renforcement et le développement de tout ce qu'on appelle les chaînes de valeur, les filières dans les secteurs végétal, animal et agricole. La troisième priorité, c'est la promotion d'une gestion durable de l'environnement et bien entendu la protection des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique devient un domaine qu'il faut prendre désormais en compte dans toute politique de développement du secteur rural. Enfin, nous avons la résilience. La résilience des populations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ces populations soient résilientes aux différents chocs dont ils sont victimes face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Revenons à la MONUSCO. La mission onusienne renforce sa présence dans le processus de stabilisation de la zone de Pinga dans le nord Kivu et a même annoncé quelques activités y afférentes. Suivons plutôt le chef de bureau de la MONUSCO à Goma. Omar Aboud s'est exprimé cette semaine devant plusieurs officiels congolais dont le ministre de la Défense et ancien combattant, Omar Aboud, est au micro de Gabriel Ouaménia.
Aujourd'hui, nous avons ramené le ministre de la Défense. Pour nous, c'est très important. Nous avons commencé à planifier avec les FRDC, mais aussi avec l'autorité civile. Pour nous, il s'agit d'interventions de plusieurs niveaux. Il y a le côté militaire avec nos secteurs de centre, mais aussi toutes les activités de nos sections subtomptives. Nous allons travailler avec le ministre de l'Intérieur, qui était avec nous aujourd'hui à Pinga, pour assurer qu'il y aura de déploiement de PNC à Pinga pour sécuriser le centre d'une ville ou d'un centre urbain. Il s'agit de la police. Alors on va travailler avec les PNC pour déployer la police, mais aussi on va travailler avec l'autorité civile pour la restauration de l'autorité de l'État. Nous allons aussi travailler sur le côté de cohésion sociale. Nous allons organiser de dialogues communautaires pour assurer que toutes les communautés qui sont là-bas à Pinga qu'ils habitent ensemble dans la paix et la sécurité.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La situation sécuritaire et humanitaire reste préoccupante dans la région de Pinga au nord Kivu. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Gressly, a fait ce constat lors de son séjour dans cette contrée. Je vous propose son entretien avec Gabriel Ouaménia.
David Gressly, vous revenez de Pinga deux semaines après les violents affrontements qui ont opposé les forces loyalistes aux combattants du NDC rénové. Quel a été l'objet de cette visite à Pinga?
On a eu en fait plusieurs objectifs. D'abord, l'objectif de voir la situation sécuritaire sur le terrain. Deuxièmement, d'écouter la population à propos de leur situation sécuritaire, humanitaire surtout, de voir de près ce que nous faisons en tant que la MONUSCO avec la force. On était là avec notre collègue civil aussi pour discuter des affaires civiles. Donc, pour moi, c'était très important de voir exactement la situation pour qu'on puisse augmenter notre appui à cette population qui doit faire face à des menaces presque tous les jours. Donc, c'était très important pour moi.
Alors, sur place, qu'est-ce que vous aviez constaté?
Ce que j'ai constaté, c'est que la situation reste très fragile. Il y a toujours beaucoup de monde qui sont déplacés dans la forêt, dans les camps de déplacés à l'hôpital, dans les maisons d'accueil des familles, des milliers. Donc pour moi, ça c'était la preuve qu'il y a encore un problème majeur sécuritaire. Deuxièmement, il me semble qu'il n'y a pas assez d'assistance humanitaire dans cette zone. Il y a vraiment aussi un besoin de désenclaver cette zone parce que c'est très difficile d'aller par la route. Il y a des ponts qui sont cassés. Il y a les routes qui sont très difficiles à traverser. Donc, et ça va freiner le développement de cette zone, ça va freiner l'augmentation de sécurité de cette zone. Donc il y a plusieurs volets à poursuivre, sécuritaire, humanitaire et développement.
Voilà. Tous les acteurs que vous avez rencontrés sur place à Pinga n'ont qu'un seul désir, la paix et la stabilité de la zone de Pinga. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer après votre retour dans cette zone?
En fait, on va continuer notre engagement avec les forces de sécurité nationales, soit l'armée congolaise, mais aussi la police nationale, de voir comment on peut donner un appui pour leurs efforts sur le terrain. Il faut pas seulement une approche militaire, mais aussi une approche policière pour avoir une sécurité durable. Je crois que ça, c'est la première chose. Aussi, c'est important, et nos collègues des affaires civiles vont travailler sur ça, c'est l'aspect de dialogue entre les communautés. Ça, c'est très important. J'étais impressionné par la volonté de vivre ensemble en paix. C'était très, très bien dit par toutes les communautés avec lesquelles on a eu l'occasion de parler. Donc, je crois qu'il y a une bonne base avec laquelle on peut travailler pour construire une paix durable. Mais il faut le retour de l'État. Il faut le retour des services. On a demandé des services pour la santé, pour le retour aux écoles. Donc, il faut tout ça. Si on veut vraiment avoir une stabilité, ça va demander une continuité de sécurité dans cette zone si ça va aller à l'avant.
Comment vous répondez à la société civile locale qui souhaite la réouverture de la base de la MONUSCO à Pinga comme c'était dans les temps?
Ça, c'est quelque chose à discuter avec mes collègues de la force ici. J'ai bien entendu cette requête, donc on va en discuter ici. Mais pour l'instant, on va continuer notre appui ponctuel sur le terrain. Normalement, s'il y a une situation sérieuse comme ça, qui demande qu'on envoie du personnel militaire, on peut le faire rapidement. Et on veut en fait éviter de trop engager seulement dans les sites permanents. Donc on va évaluer la nécessité d'une présence permanente.
Bon, Monsieur Grizzly, vous avez rencontré les responsables des FRDC à Pinga, puis ils ont d'ailleurs déploré le fait que la MONUSCO a réduit son appui aux FRDC. Comment vous répondez à ces officiers?
Notre réponse était claire, on a reçu cette demande, on va examiner, évaluer, et si ça conforme à nos normes, surtout sur les droits de l'homme, je suis sûr qu'on peut trouver un appui pour eux aussi.
David Grizzly, merci.
Un grand merci à vous, merci bien.
Les nouvelles en plus bref. D'abord ce message de félicitations de Leila Zerougui au PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui a reçu le prix Nobel de la Paix 2020 la semaine dernière. Il faut rappeler ici que le PAM est présent en RDC depuis 1973. Cette agence onusienne fournit une assistance alimentaire vitale, notamment dans les provinces congolaises de l'Est et dans le Grand Kasaï. Cette année, le PAM compte fournir une assistance à 9 millions de Congolais. Volet droits de l'enfant, au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté 544 violations graves commises à l'encontre des enfants dans le contexte des conflits armés en RDC. Ces violations portent sur le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés, 380 cas, enlèvement 52 cas, meurtre 24 cas, mutilation 16 cas, violence sexuelle 60 cas, attaque contre les écoles et centres de formation 2 cas et attaque contre les hôpitaux 8 cas. Pendant ce temps, une cinquantaine d'enquêteurs de la police nationale congolaise, dont 10 femmes, ont suivi une formation spéciale initiée par l'équipe spécialisée en violence sexuelle basée sur le genre de UNPOL, police de la MONUSCO. Cette formation a eu lieu du 8 au 12 octobre 2020 dans les bureaux du commissariat urbain de la CELE, ici à Kinshasa. Les enquêteurs de la PNC bénéficiaires de cette formation ont appris des notions de base pour identifier et lutter contre cette forme de criminalité dont les principales victimes sont les femmes et les enfants.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que Parfait Kaba, responsable du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA Kisangani dans la Tchopo, a accordé à Radio Kapi. Entretien qui a tourné autour de la réouverture du bureau de cette agence de l'ONU dans la Tchopo après sa fermeture depuis bien des années. Parfait Kaba répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Parfait Kaba, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le responsable du bureau de l'UNFPA à Kisangani. Ce bureau a existé il y a quelques années ici à Kisangani. Il avait été fermé, il a rouvert ses portes il y a presque une année. Qu'est-ce qui a milité à cette réouverture?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord souligner que l'UNFPA avait fermé physiquement le bureau à Kisangani, mais ses appuis ont continué dans la province et dans toute l'ex-province orientale. Donc, physiquement, nous n'étions plus présents ici à Kisangani, mais sur le plan des activités, les interventions continuaient toujours.
À quoi consistent les interventions de l'UNFPA ici à Kisangani?
Vous savez, l'UNFPA, c'est l'agence des Nations Unies spécialisée dans les questions de santé de la reproduction. En cela, l'UNFPA apporte un appui pour la santé maternelle et principalement la lutte contre la mortalité maternelle. UNFPA intervient aussi dans la lutte contre les violences basées sur le genre et il intervient également dans les questions de fistules obstétricales et les questions des populations dans l'ensemble, mais aussi et surtout la promotion de la jeunesse.
Il y a l'OMS et l'UNICEF, deux organismes des Nations Unies qui sont présents à Kisangani, qui interviennent aussi dans le domaine de la santé. Quelle est votre spécificité?
C'est comme je venais de le dire, la spécificité de UNFPA, ce sont les femmes. UNFPA intervient pour sauver principalement la vie des femmes et des nouveau-nés. Et en cela, UNFPA apporte un appui pour que toutes les femmes puissent accoucher dans des conditions requises en présence du personnel qualifié et avec la qualité de service requis.
Et par rapport à la santé, il y a la COVID-19, il y a également la polio, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Quelle est la contribution de l'UNFPA dans la lutte contre ces maladies?
L'UNFPA, par rapport à la lutte contre la COVID-19, l'UNFPA intervient principalement dans la communication pour les changements de comportement et dans la prévention et le contrôle des infections. D'ailleurs, pour votre attention, je vous informe que bientôt nous allons lancer un projet de prévention des infections, de prévention et contrôle des infections dans les maternités de la province. Il y a 30 maternités qui sont ciblées où le personnel va être formé pour la prévention et le contrôle des infections, mais ces maternités recevront aussi les équipements nécessaires pour la prévention de la COVID-19.
Et par rapport à la polio?
L'UNFPA n'intervient pas dans la vaccination, mais l'UNFPA apporte quand même une assistance aux personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec handicap. L'UNFPA intervient dans la résilience communautaire, dans l'autonomisation des personnes vulnérables.
Quel message pouvez-vous lancer à la population de la Chopo et de Kisangani en particulier?
En cette période difficile de COVID-19, mon premier message c'est de demander à la population de la Chopo de continuer à observer les mesures barrières édictées pour lutter contre COVID-19, mais aussi d'appeler la communauté à fréquenter les formations sanitaires quand il y a un problème pour la santé, et surtout pour les femmes enceintes, de se faire consulter pendant la grossesse pour que l'évolution de la grossesse soit suivie. Et bien sûr, bien entendu, je voulais lancer aussi un message pour la protection de la femme et de la jeune fille. Vous basez sur les gens, sont aussi un autre aspect de problème auquel la province de la Chopo fait face.
Parfait, Kaba, merci.
Je vous remercie.
Je l'ai dit dans le sommaire, plus de 2500 ménages du village Inke dans le nord Ubangi ont bénéficié d'un don en articles ménagers du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. La majorité des bénéficiaires sont les réfugiés centrafricains qui ont fui les conflits armés dans leur pays, dont certains depuis 2013. Honoré Misengakalala pour plus de détails.
Les réfugiés centrafricains bénéficiaires du don du HCR sont ceux du camp Inke, constitué en 1785 familles et ceux vivant dans des familles d'accueil des autochtones. Conformément à sa philosophie, l'aide de l'agence a bénéficié aussi aux familles d'accueil. Cette aide a été composée notamment des ustensiles de cuisine, des nattes, des moustiquaires et des couvertures. Pour réaliser ce geste, le HCR a été appuyé par son partenaire habituel, ADSSE, Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. L'opération de distribution a été lancée le 22 septembre 2020 au camp Inke et s'est clôturée samedi 10 octobre dernier à Mobaimbongo, à environ 25 km de Badolité. La sous-délégation du HCR et la Commission nationale pour les réfugiés ont été représentées à la cérémonie officielle de cette activité.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
À présent, suivez cette question d'André Kitenge, posée à Madame Cecilia Piazza, chef des affaires civiles à la MONUSCO, ainsi que la réponse de cette dernière.
Cecilia Piazza, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous revenez de Mamové, dans le secteur Beni Mbaou. Dites-nous le pourquoi de votre descente à Mamové.
Effectivement, nous sommes rendus aujourd'hui à Mamové. Nous sommes rendus avec le commandant de la force d'intervention rapide, donc de la MONUSCO, mais aussi, et c'est très important, avec le commandant adjoint de Sokola 1, ainsi qu'avec l'administrateur du territoire. Nous avons voulu effectuer cette visite ensemble suite à deux incidents graves qui sont survenus en début de ce mois et qui demandaient à ce que nous allions nous enquérir sur la situation sur place, nous allions échanger avec les communautés afin que des dispositions idoines puissent être prises.
Un grand rendez-vous à retenir la semaine qui commence le 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies. Des activités seront organisées au siège à New York et dans les pays membres de cette organisation et bien sûr dans le contexte de Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce magazine préparé, coordonné et réalisé par Honoré Missenga Kalala avec l'appui de Jean-Marc Matouaki Mofele et Lady Jeannot. Belinda Bosuma, c'est moi, je vous l'ai présenté avec plaisir. Merci à la technique et merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne condition d'écoute des autres programmes de la Radio de la Paix et à dimanche prochain. Au revoir.